Salut, vous êtes sur le 89.5 de Radio Jo et vous écoutez à présent des litres de salive. Et aujourd'hui, dans des litres de salive, c'est fiction.
C'est le moment de libérer la chatte.
Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois?
J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés.
Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc.
Mais combien de fois t'as simulé?
Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis.
Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos.
Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre?
Moi, j'adore les histoires de pénis.
Oh là là, voilà un béga que j'aimerais me faire.
Que veux-tu, je suis fan de toi. Que veux-tu.
Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro?
Que veux-tu, je suis fan de toi.
Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus.
La baisse, la baisse.
Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. C'est la période de l'année qui pousse un petit peu à la mélancolie, aux bonnes résolutions, à passer du temps en famille, enfin... Bon, c'est assez chiant, c'est un peu la cerise de cloporte écrasée, agglomérée sur cette année toute pourrite. Hein. Ou même quand on rigole bien, on rigole un peu malgré tout. Alors pour vous réconforter, je vais vous raconter des petites histoires. Pour certaines, elles vont être violentes et beaucoup parler d'organes génitaux qui ne seront pas toujours en très bon état. Donc peut-être c'est pas mal d'éloigner les oreilles sensibles du poste, comme elles disent sur France Q. C'est une émission presque 100% de fiction. Faudra être indulgente, c'est des trucs que j'ai écrits il y a longtemps. Et puis même les trucs que j'ai écrits il n'y a pas longtemps, c'est bien d'être indulgente. Mais bon, pour commencer, on va partir de réel, bien réel. Je vais vous lire une sélection de profils trouvés sur des sites de rencontres. Pour corser l'exercice, je vais essayer de lire ça en m'abstenant de faire des commentaires, hein, ce qui risque d'être un petit peu compliqué. Jarod. 47. Homme. Être dominant ou alpha est un art subtil et non une tyrannie. Il se doit de protéger sa compagne, la guider, lui faire découvrir l'antre des délices, où les jeux physiques et psychologiques l'emmènent dans un tourbillon d'exquises sensations de plaisir intense où tout son être vibre de mille feux. Complicité, classe, partage, plaisir, séduction, respect. Étant très exigeant, sauras-tu lâcher prise et me suivre. Sache que je veux une relation sérieuse. Personne non intéressée s'abstenir. Jonathan, 31. Sportif chez Pro Paddle. Sportif de haut niveau vivant à Perpignan, cherche femme d'origine italienne, espagnole, latine ou pays de l'Est, très sportive, mesurant entre 1m60 et 1m70 pour un poids de grand maximum 55 kg. Pour voir mes photos de modèle, suivez-moi sur Instagram. Je parle anglais, français et espagnol. PS, pour les Françaises, il faut un physique irréprochable. Anthony 39. Mon profil n'est pas fake, smiley, clin d'œil, smiley, pouce en l'air. Homme de caractère et sérieux, 1m80, 75 kg. Authentique et sérieux dans cette démarche. Atypique et singulier, j'aime les femmes avec une personnalité très serviable et dévouée. Mes photos dans un deuxième temps, après avoir fait connaissance, si affinité. L'atypisme est souvent bizarre pour les personnes conventionnelles. Ma chanson culte, Roots, Bloody Roots, de Sepultura. Mika Légèreté 44. Respect, franchise, légèreté ne signifie pas n'importe quoi. Passionné par nature, musique, animaux, concert, tendresse, bisous, long préliminaire. Idriss, 35. Cherche nectarine juteuse ayant la pêche pour chasser lamelles en colis et plus si affinité. Polyamour, 25. Bonjour, nous sommes 6 amies polyamoureuses et très ouvertes d'esprit. Nous avons donc créé un compte commun dans le but de rencontrer des gens bien. On est très compétitive entre nous et on aime se taquiner. Donc tu peux tout nous dire. Dis-nous qui est la plus bonne, laquelle mérite le plus une faciale, qui a l'air d'avoir le meilleur cul par exemple. Il n'y a pas de limite, seulement celle que l'on se fixe bien sûr. Benoît, 30 ans. Quelle femme n'a pas envie d'un délicieux cunnilingus ? Vous l'avez compris, je suis un fan de cunnilingus. Alors mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas à me solliciter, ce sera avec un grand, grand plaisir. Je peux me déplacer quand vous le souhaitez. À noter que je ne suis pas un extraterrestre, j'assume complètement le fait d'aimer faire des cunis. Je suis très respectueux. Je suis également un peu soumis et fétichiste. Donc si vous le souhaitez, je peux également m'occuper de vos pieds. Lolo, 39. Homme marié qui s'ennuie et cherche discussion. Enfin, pas que. Lol. Pas de prise de chou, je suis débordée, mon job m'impose la plus grande discrétion. Comptez pas sur moi pour les balades et dîners en amoureux, j'ai déjà une vie, je préfère être honnête. Smiley clin d'œil, smiley qui fait un bisou, qui fait un cœur. Respect, 35. Déjà en couple, mais recherche relation. Relation extra-conjugale, suivie sans prise de tête pour moments de partage, complicité régulière dans le respect et la discrétion. Abracadabra, 25. Je ne suis pas certain de te correspondre. Je ne cherche pas le grand amour. Chercher est le meilleur moyen de ne pas trouver, ni d'histoire sérieuse. PS. Si tu es pleine d'a priori envers le sexe et fermée au plaisir discret et respectueux avec un inconnu, sache que beaucoup d'autres hommes t'attendent. Martial, 32. Une rencontre autour d'un verre, sympa. Si le courant passe et que tu es adepte ou curieuse d'être dominée. Une nuit torride où je fais de toi mon esclave. We'll be right back. Bon, voilà. Il vaut mieux en rire, hein, je pense. On va passer au récit vraiment de fiction. La première petite histoire que je vais vous lire, elle a peut-être une dizaine d'années. C'était après avoir lu King Kong Theory, pas très longtemps après, je pense. Et il y a une citation de cet ouvrage qui ouvre l'histoire. Bon, c'était un moment où ça me travaillait l'idée de riposter à la violence et de changer les récits culturels, ne serait-ce que dans la fiction. Et où ça me paraissait une bonne idée, et sûrement que ça l'est toujours. Et de toute façon, tous les prétextes sont bons pour se défouler littérairement avec plein de sang et de coups de bâton. Mais des femmes sentent la nécessité de l'affirmer encore. La violence n'est pas une solution. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leurs pulsions masculines et comprendre ce que non veut dire. Virginie Despentes, King Kong Theory. Première scène. Je suis sortie du bar vite et mal. Me suis accrochée au lampadaire de la ruelle voisine pour vomir. Un long jet puissant et multicolore, comme un arc-en-ciel un petit peu dégueu dans la nuit. Le froid auréolait mon expulsion d'une brume légère. Je me suis accroupie, soulagée. Les couleurs avaient une sorte d'harmonie, genre manger sain, vous vomirez équilibré. Et puis j'ai reçu un coup violent à l'arrière du crâne, vraiment violent. Me suis avachie dans mon vomi fumant. J'ai juste eu le temps de remarquer une rondelle de chorizo semi-digérée sur laquelle se sont focalisés mes derniers instants de conscience. Maintenant j'ai froid et j'ai mal. Mon dos est appuyé sur le crépi du mur de la ruelle et je sens bien que c'est du crépi parce que je suis tout nu. Mon regard tombe sur mon entrejambe. Du vomi. Mais... Putain, mais j'ai mal et c'est bizarre, mais... Mais c'est pas du vomi. C'est ma bite. Couverte d'hématomes, de cloques, de sang. C'est pas possible, non, c'est pas possible. Mon bras se soulève, je pose un doigt dessus et je hurle. La brûlure est si intense que la peau en devient glacée. Le frôlement déclenche une sensation de déchirure qui s'étend jusqu'au ventre et aux cuisses. Et je continue de hurler. Manifeste du collectif pour une juste violence. Vous avez trouvé les féministes des dernières décennies violentes? Vous les avez critiquées et traitées de mal baisées, de sales gouines, de traînées? Vous ne savez pas ce qu'est la violence, vous ne la voyez que depuis l'œil du tortionnaire. Nous sommes là pour vous montrer, vous faire sentir dans votre chair que vous n'avez rien vu encore. Nous allons cueillir chacune de vos bites dégueulasses pour en faire le plus immonde des bouquets. Ne croyez pas que ce sera sans douleur lorsque nous arracherons lentement les pétales de vos précieuses petites fleurs. Vous avez été du côté de la violence trop longtemps. Il est temps que vous connaissiez la peur. Une autre scène. Mais pourquoi j'ai laissé cette salope m'attacher? À la première mandale, je me suis dit qu'elle devait avoir des mœurs un petit peu hardes et que ça la faisait un peu trop rire à mon goût, mais bon... Ça fait partie du plaisir de rentrer avec quelqu'un qu'on connaît pas. Le frisson de l'inconnu, le plaisir de la découverte, toutes ces conneries-là. Moi, je suis un mec ouvert, hein, j'ai pas de problème, chérie. Si ça te fait mouiller de te sentir en force face à un mec pour une fois dans ta vie, c'est super. Hein. Après tout, il y en a que ça fait bander de se faire cogner. Quand elle a commencé à fermer le poing pour frapper, subitement, j'ai arrêté de bien le prendre. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cette pute? Elle va me faire saigner. J'ai gueulé, mais arrête, bordel, arrête. Et nous y voilà. Du sang a coagulé dans mon nez. Je galère à respirer parce que dans ma bouche, elle a fourré mon boxeur et elle a fixé le tout au sparadrap. Je savais que j'aurais dû vivre en colocation. Ou avoir un chien, c'est bien ça, un chien. J'espère encore que ça fait partie de son délire sexuel, mais je crois surtout qu'elle va me buter comme ça, pour rien. Je chiale, ça arrange pas ma respiration, mais ça pourrait l'émouvoir, putain, un mec qui pleure. Je comprends vraiment rien, je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. Ça me paraît loin, ce que je suis en train de vivre, c'est tellement n'importe quoi. Je vais crever là parce que j'ai ramené cette espèce de sale pute chez moi. Je la vois fouiller dans son sac et en sortir un truc long, cylindrique. Elle va me mettre un god. Peut-être c'est sexuel, alors peut-être je vais pas mourir. Elle branche son bazar à la prise au pied du lit. Elle s'assied comme si elle attendait quelque chose. J'essaye de la fixer autant que je peux, l'attendrir, bien lui montrer mes larmes. Elle me sourit et se penche pour récupérer son engin. Quand elle l'approche, je vois que le cylindre est plus fin qu'un god et s'ouvre en deux parties. Elle attrape ma queue en me regardant bien droit dans les yeux et la met entre les deux parties du fer à lisser qu'elle referme lentement. Une autre scène. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'affûter un épluche-légume. C'est pas évident. Je veux pas me chercher d'excuses, hein, c'est que j'essaie généralement de bien faire les choses, d'optimiser quoi. Là, par exemple, je me suis emmerdée à prendre une pierre à affûter et puis un économe de secours au cas où ce salopard en aurait pas. Et voilà, je me retrouve finalement mal outillée et je fais un travail dégueulasse. Mais on est censé faire quoi avec les économes quand ils sont usés, les jeter ? C'était un aspect de l'obsolescence programmée auquel j'avais jamais eu l'occasion de penser vraiment. J'ai fait ce que j'ai pu, mais les zones de chair à vif, elles sont irrégulières, rien à voir avec les jolies bandes rouges nettes que je voulais obtenir. Je rêvais d'un motif du style sucre d'orge de Noël et je me retrouve plutôt avec charpie de boucherie. En plus, il y a des lambeaux de chair coincés entre les lames, non vraiment, ça fait pas sérieux quoi. Et ce connard-là qui arrête pas de couiner, il bave tellement dans son baillon que ça dégouline, ça fait un filet de bave épaisse là, qui coule lentement depuis son menton jusque sur son torse et ça suinte dans ses poils, c'est écœurant. Ça m'étonnerait qu'il perçoive l'ironie de la situation. Je veux dire, le fait qu'une féministe violente utilise des ustensiles de cuisine pour lui lacérer la teub. Personnellement, je trouve que ça a de la gueule, dans le genre « Ah, tu voulais qu'on reste à la cuisine, et maintenant on y a trouvé des outils intéressants pour s'occuper de toi. » Mais bon, je crois que ce serait beaucoup lui demander de faire preuve d'humour et d'à-propos là tout de suite. Hein. Bah, il doit vraiment ramasser. Quand il a commencé à boire son vin blanc de merde sans rien remarquer, j'ai su que c'était lancé. J'ai quand même dû l'occuper le temps que le machin fasse effet. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même vachement plus pratique de scalper une queue quand son propriétaire a absorbé une dose raisonnable de Viagra. Et même si je suis pas entièrement satisfaite d'un point de vue esthétique, ça reste assez intéressant. Ça pisse le sang d'une façon qui est bien impressionnante. Encore une autre scène. À genoux entre ses cuisses, je lui caresse doucement les couilles en le suçant. Mes mouvements sont un petit peu saccadés, mécaniques, mais ça le gêne pas. Il a pas l'air de comprendre que je suis pas là. Je suis déjà dans la lame, je pense déjà à la précision des gestes. J'ai peur que ça foire et je veux que ce soit magnifique. Il prend bien son temps pour jouir, ce connard. Ça me laisse du temps pour que le stress monte, pour que les « et si » se bousculent dans ma tête. Et... Enfin, je sens les petits mouvements contractés qui précèdent l'éjaculation. Ma main cherche le manche du couteau, se crispe dessus. Il jouit. Quand il a fini, je me redresse et d'un geste sec, je lui entaille la gorge. Une belle entaille, large, profonde. Sa tête part en arrière comme si elle allait se détacher, au ralenti. Elle vient s'appuyer sur le dossier du fauteuil. Avec une légère impulsion du buste, je me penche au-dessus de la plaie pour y recracher le sperme. Une dernière scène. Elles sont une petite dizaine dans le salon meublé tout Ikea du type. Un peu de sang a giclé sur le meuble télé quand la préposée à la batte de baseball l'a assommée. Il y a une ou deux dents qui ont laissé une traînée rougeâtre sur le revêtement blanc du meuble et qui sont tombées au sol, comme un reliquat pitoyable de jeu d'osselet. Les filles se sont installées, assises sur son canapé, par terre. Certaines restent debout près du bar. Lui est allongé sur le sol, déjà bien mal en point. Elles fument toutes. C'est stressant de séquestrer des inconnus, alors si on n'a pas sa dose de nicotine. Personne ne parle. On n'entend que les couinements du type à travers la bande de gros scotch devant sa bouche. Elles ont l'air graves, solennelles. Une par une, elles vont écraser leurs cigarettes sur la bite du type. On va faire une petite pause musicale pour se remettre avec une chanson du groupe Horty qui s'appelle Tug Tropic.
Sous la jungle éternelle comme les œufs froids des crocodiles. Je marche les yeux éteints en mini-jupe sexe dans la ville. Les ghettos tropicaux, les tags, les filles faciles. Je t'aimerai pour toujours, je me suis noyée dans la piscine. Dans la piscine. Dans la nuit, j'ai vu une autre Mercedes noire. Dedans y'avait le mec qui a tué la fille. Mais j'en suis pas sûr car dans l'obscurité la voiture roulait vers la jungle en éteignant ses phares.
Et voilà. C'était Horty avec Tug Tropic. La deuxième petite histoire que je vais vous lire, c'est un truc que j'ai écrit suite à de multiples lectures éprouvantes de trucs super chiants et aussi suite à plein de conversations pénibles avec des gens qui comprennent pas que le sexisme inversé, c'est pas un truc, en fait. Et ça m'a donné envie de décrire un monde qui serait vraiment sexiste envers les hommes cis pour donner une idée à ces personnes de vraiment ce que c'est, en fait. Un monde qui serait sexiste structurellement. Voilà. qui aurait conservé la binarité de genre, mais pas vraiment inversé, mais qui aurait vraiment inversé la domination. Et qui serait pas juste légèrement déstabilisant pour des types habitués à ne jamais se remettre en question. Ouin, ouin, ouin. Égalisation des sexes. Julien est allongé sur son lit et fixe le plafond. Son imagination fait défiler des images agréables et quelques-unes teintées de crainte. Demain, c'est le jour de l'égalisation de son sexe. Demain, tout devient possible. Avec les filles, surtout. Son sexe sera rendu conforme et il pourra enfin faire l'amour sans susciter des couinements d'étonnement et de dégoût. Il n'aura plus peur du regard des hommes déjà égalisés dans les douches de la piscine. La perfection de la taille et des lignes de son sexe sera regardée avec admiration. Peut-être que même s'il est assez conforme, les plus beaux hommes le suceront discrètement dans sa cabine. Quelque chose l'inquiète un peu cependant. Son pénis, lorsqu'il est en érection, penche un peu vers la droite. C'est une imperfection qui se corrige bien de nos jours, mais il a peur que cela se voie encore un petit peu après l'égalisation. Julien entre dans l'immense salle répartie en box. Ça ressemble à un gigantesque vestiaire de piscine. Comme beaucoup de bâtiments depuis les événements de 3052, il y a plusieurs couloirs parallèles de compartiments. Un numéro est déjà inscrit sur chaque porte. Tout est d'un rouge brillant, les murs, le sol, le plafond. Toutes les surfaces sont couvertes d'un vinyle luisant évoquant le vernis à ongles classique et séducteur. Les garçons sont regroupés dans l'entrée de la salle. On les appelle par petits groupes et ils partent à la recherche du box correspondant au numéro qui leur a été attribué. Julien suit une allée en direction du numéro 57. Il sait que dans son box, il y aura deux sièges confortables, une docteure accompagnatrice spécialement formée et une machine médicale à découpe laser et reconstruction. Ils ont eu un après-midi de sensibilisation à l'école pour leur expliquer comment ça allait se passer. Sans les filles, bien sûr. L'intervenant a parlé des box, de l'accompagnatrice, de l'entretien, et aussi de l'opération chirurgicale d'égalisation. Il a aussi expliqué pourquoi c'était aussi important de se faire égaliser, même si beaucoup d'élèves étaient déjà au courant. Tout a commencé peu après la 5e guerre planétaire. Les nations ayant convenu que les modes d'affrontement classiques n'étaient plus envisageables en raison de la nécessité de préserver des zones d'agriculture ainsi qu'une population humaine viable. Un autre moyen de s'affronter devait être trouvé. À cette époque, les néo-freudiens, une branche de la sociobiologie fusionnée avec les anciennes théories de la construction du psychisme, étaient des intellectuels très influents, mais pas encore établis comme penseurs officiels. Leur principal théoricien fit une proposition à la nouvelle assemblée des chefs d'État. Un retour des façons de se départager n'entraînant pas de destruction massive étant nécessaire, pourquoi ne pas revenir à un niveau individuel et dans le même temps faire confiance à la nature ? Dans ces sociétés aux coutumes qui nous paraissent vraiment lointaines, les hommes étaient considérés comme supérieurs aux femmes et les qualités dites viriles étaient très valorisées. La virilité d'un homme se mesurant principalement à la taille de son pénis, il suffisait donc de mesurer tous les sexes des dirigeants pour ainsi établir une hiérarchie et instaurer la paix. Quelle fantastique solution les néo-freudiens avaient élaborée! Malheureusement, parmi les dirigeants les moins pourvus en centimètres, beaucoup manifestèrent leur désaccord en castrant les politiciens au sexe plus imposant. S'en suivit une longue série de rétributions, représailles et castrations multiples. Il semble que la méthode n'ait pas tenu compte des dimensions des égaux, malgré son acuité concernant celle des pénis. Ces affrontements, dont vous avez déjà certainement entendu parler, sont désignés dans les récits historiques sous le nom de « Grande guerre de la taille des bites ». Une autre conception de la nature plus juste reprit alors de l'importance. L'anatomie de la vulve était jusque-là négligée et sujette à des interprétations symboliques la rapprochant d'un trou, d'un endroit du corps passif. Mais alors que le monde avait constaté que les hommes et leurs pénis ne menaient qu'à la ruine, une interprétation plus pertinente des organes féminins vit le jour. L'idée d'intensité et de force concentrée prit le dessus sur celle de la taille, et cette conception éclairée fit basculer le clitoris et ses détenteurs dans le règne de la puissance. Enfin, le monde prit conscience de la valeur de la classe féminine, démontré par son anatomie surpuissante. Les dirigeants furent progressivement remplacés par des dirigeantes, et les guerres cessèrent pour de bon lorsque le dernier homme quitta les instances du pouvoir mondial. Désormais, le monde est en paix, une paix scellée par le pacte de 37-27 après Madonna. Pour éviter que survienne à nouveau un épisode de barbarie tel que la guerre de la taille des bites, les hommes sont désormais sujets à l'égalisation. Dans leur grande sagesse, les nouvelles présidentes rendirent obligatoire le nivelage pénien. Plus de problèmes d'inégalité entre les sexes à présent. Chaque garçon atteignant l'âge de 16 ans se voit offrir la possibilité d'être intégré à la société en conformant son sexe à la norme établie au millimètre près. Grâce à la technologie de découpe génération laser, pas de jalousie, pas de compétition. Tous égaux pour maintenir la paix dans le monde. L'intervenant a demandé si nous avions des questions. Pour la plupart, nous étions déjà au courant de cette partie de l'histoire et des raisons de la mise en place de l'égalisation. Ça y est, Julien est devant le box 57. Il entre, salue l'accompagnatrice et s'installe dans le siège qu'elle lui désigne. Les murs sont bleu pâle, recouverts de tissus capitonnés. Ils ont l'air légèrement moelleux. Plusieurs écrans sont fixés au mur, ils sont encadrés de bois clair et montrent de courts extraits en boucle d'un documentaire sur les dauphins. Des dauphins en plein saut au-dessus de l'océan, des dauphins happant des poissons, des dauphins jouant entre eux. Aucun son ne parvient depuis l'extérieur de la pièce. Une fausse fenêtre entoure un autre écran, sur lequel on peut voir un ciel azur et une prairie parsemée d'espèces florales fantaisistes et indéterminées. L'accompagnatrice est une femme d'une quarantaine d'années. Elle cache difficilement son ennui derrière un sourire professionnel. Les accompagnatrices sont des docteurs en médecine spécialisés dans l'égalisation. Elles sont assez reconnues pour leur travail étant donné son importance symbolique. Elles sont en quelque sorte les agentes de la paix dans le monde. Pendant qu'elle pose les questions d'usage à Julien, ses yeux sont éteints. Elle ne dégage aucune émotion. Son haleine fait penser à l'odeur d'un tartare de bœuf avant qu'on l'assaisonne. Julien a l'impression que cette odeur a envahi la pièce. Il se met à penser à sa chair crue à lui, à cette zone douce et sensible que le laser va couper, formater, reconstruire. Il n'y aura pas une goutte de sang, il le sait, l'opération est propre. Mais il y aura tout de même un moment où la chair sera nue avant que la peau n'y soit recollée. Il n'avait pas pensé à cette réalité de la viande avant d'être dans cette pièce. Il y a très peu d'hommes accompagnatrices. Le fait qu'ils soient directement concernés et qu'ils aient eux aussi vécu l'égalisation trouble leur jugement. Une trop forte empathie peut donner lieu à un manque de professionnalisme. Il vaut mieux laisser faire les femmes, plus distantes de la chose, et qui sauront gérer avec calme les incidents et les éventuels garçons récalcitrants. Les quelques hommes qui cessaient à être accompagnatrices sont souvent soupçonnés de pédophilie. C'est déjà le moment. Il a répondu aux questions. L'accompagnatrice se lève, le prend par l'épaule, le place devant la console sur laquelle est posée la machine. En passant derrière lui, elle vérifie que son bassin est à la bonne hauteur, bien en face de l'ouverture qui va accueillir son sexe. Elle réajuste la hauteur. « Tu peux baisser ton pantalon et ton slip et commencer à te stimuler. » L'égalisation se pratique sur le pénis en érection. Elles peuvent la provoquer avec une injection, mais il est préférable d'obtenir une érection naturelle pour ne pas surcharger le corps. Il y a déjà l'anesthésie automatique. Les images changent sur les écrans. Maintenant, on y voit des gros plans sur des pénétrations vaginales ou anales et des fellations. Quand tu es prêt, dis-le. Les images ont bien fonctionné sur Julien. Ça y est. Elle se met derrière lui. Saisit son sexe à la base et l'insère dans la machine. L'ouverture se referme hermétiquement autour du pénis. Un voyant vert s'allume. Il indique que l'anesthésie est active. En quelques secondes, c'est terminé. Julien n'a rien senti du tout. Et voilà ! Elle a gardé la main sur l'épaule de Julien et exerce à présent une légère pression pour qu'il se recule. Il se rhabille et se rassoit. C'est un peu douloureux comme contusionner, surtout au niveau du gland. Il n'a pas vraiment regardé, il avait hâte de se couvrir. Elle énonce lentement les consignes. Combien de temps sans rapport, la micro-cicatrisation. Vous êtes bien vierge ? Oui. Il ne comprend pas pourquoi cette question. En partant, il passe devant une salle de pause dans laquelle deux accompagnatrices discutent. Je les trouve bien délicats, les nouvelles générations. Hein. Ils se plaignent de douleurs, ils ont peur de se déshabiller devant nous. On est des professionnels, hein, quand même. Honnêtement, je comprends pas. C'est pas comme si on leur rabotait le pénis au papier de verre. C'est moderne comme méthode. On dirait qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et maintenant, une nouvelle pause musicale de circonstances. On va écouter une chanson de Circé des Landes.
De ma main, comme un oiseau fragile, je la serre, je la tiens, lui offre une coquille pour abriter son corps de petits volatiles. La voilà qui m'implore, qui se fait un docile. Ses ailes se déploient pour perforer le ciel, elle éclate de joie. Va baiser le soleil, dénicher ses rayons, ses pétales insolites, fiers comme un pont tapis. Tapite est une reine dont je suis la servante, dans des poses obscènes de vierge décadente. Je lui offre son trône par tous mes petits trous. Vois comme elle est grandiose dans les crins de mes joues. Elle vient comme une vague me livrer son écu, ses joues sur le rivage. Nos amours postulent dans le creux de ma main. Elle se recroque vie et tout doucement c'est un tapis. Comme dans un nid douillet, mon oisillon sauvage à la chair froissée. Soudain comme le phénix de ses cendres renaît, et revoilà ta bite.
Et voilà, c'était donc la chanson « Ta bite » de Circé des Landes. Et il y a un bouton qui clignote sur la console et j'espère que ce n'est pas un problème. Voilà. Bref. Alors, on va encore parler de tub dans la prochaine petite histoire que je vais raconter. Voilà. J'aimerais pas que ça devienne systématique de parler de tub tout le temps. Mais bon, maintenant c'est trop tard, j'ai écrit des histoires et ça parle de ça. Je pense que c'est parce que je traîne trop avec des mecs cis et que du coup ça m'a donné, genre je suis imprégnée et je fais comme eux, ça me donne l'habitude de parler sans cesse de trucs qui me concernent pas directement et dont je n'ai pas l'expérience. Voilà. Donc là, je vais vous lire une histoire d'aventure. C'est une aventure de la célèbre Indre-et-Loire Jaune. Et c'est Indre-et-Loire Jaune, l'aventurière de la NIC et la malédiction des zombies. Indre-et-Loire était lovée sur son canapé et regardait une série. Un truc pseudo-romantique et peu soucieux des réalités historiques censées se dérouler dans l'Angleterre du début du 19e. Les intrigues amoureuses des personnages étaient assez distrayantes et surtout les costumes étaient vraiment super. Peut-être c'était les éléments les plus réalistes de la série. Le regard d'Indre-et-Loire se perdait par moments au-dessus de l'écran, sur l'étagère où était rangée sa collection de godes qui prenait la poussière. Depuis les confinements successifs et la vie à moitié, c'était pas trop la teuf. Son attention fut de nouveau attirée par l'écran. On y voyait une scène de sexe à moitié convaincante, à moitié bien, à moitié non-oppressive. Tout était à moitié de toute façon en ce moment. Elle avait fini par s'y faire. On rigolait à moitié, on sortait à moitié, on se liait à moitié. Et c'était pas toujours les meilleures moitiés des gens qui ressortaient sous les effets de la frustration et de la solitude. Puis à quoi bon ? Ouais, Indre-et-Loire était bien dark aujourd'hui. Mais une étincelle craqua dans un coin de sa tête. Pas que de sa tête. Une petite flamme commença de brûler alors qu'elle regardait cette série décorative. Il y avait une scène de sexe, donc. Et malgré sa médiocrité, malgré le cunnilingus dont la présence était déjà un progrès mais qui durait 10 secondes, malgré le fait qu'il soit immédiatement suivi de pénis dans vagin dans un but ému de procréation, l'idée de truc mouillé qui se frotte avait réveillé l'instinct de Nick d'Indre-et-Loire. Elle pensa à Machine qui était pas là, à Machin qui était quand même trop relou. C'était vite fait le tour des possibilités. En fait, il n'y en avait pas vraiment. Alors, Indre-et-Loire se résout à ouvrir l'application Pinner. Cette appli, c'est pas exactement super. Elle aurait préféré rencontrer une personne dans un cadre festif, pas trop avoir le temps de réfléchir et se laisser emporter par l'enthousiasme du moment. Mais déjà, quand il y a un cadre festif quelconque, bon, bah, c'est plutôt rare que ça lui arrive. Et là, bah, il n'y a pas de cadre festif. Elle repense avec nostalgie à quand c'est arrivé de rentrer de soirée ivre et de ken avec une personne avec laquelle on n'a pas pris le temps de construire une intimité. Ouais, elle se dit que peut-être il n'y a pas de quoi être nostalgique. Parce qu'elle est trop dark, mais des fois c'est marrant. Mais en ce moment, à moins de pécho dans la rue, faut se résoudre soit à sublimer ses élans sexuels, comme disent sûrement les hippies, soit à aller consulter des profils sur cette appli. Elle y va, elle parle à des gens, bon bah, il n'y a que des mecs cis hein, qui lui parlent. Elle fixe un rendez-vous à un gars le lendemain. Un type lambda, mais quand même pas de droite. Hein. Pseudo alterno, de gauche, voyage à vélo, profession libérale quelconque. Il se voit, il est parfait, il est sexy, il a les dents du bonheur, sa peau a l'air veloutée. Il est relativement intéressant, bien qu'imbu de lui-même. Pile le genre qu'elle va trouver touchant, mais dont elle sera pas amoureuse. C'est fatigant l'amour. Et il lui faut de l'énergie pour dépoussiérer tous ses godes. Au bout d'un moment, il propose d'aller chez lui. Il se roule des pelles dans l'entrée de l'immeuble, il a un peu goût à bière, c'est toujours sympa. Mais elle commence à avoir une sensation un petit peu bizarre. Il se colle contre elle, hein. elle sent qu'il bande bien fort, quoi. Mais c'est comme s'il était un petit peu absent. Cette sensation, elle est floue, mais elle persiste. Elle se mélange à son désir à elle, et ça fait que rien n'est clair. Il rentre chez lui. Ils vont dans la chambre, parce que bon, quand même, c'est chaud. Sur le lit, il soulève son t-shirt, il relève son soutif, et il commence à toucher la poitrine d'Indre-et-Loire, et ses mains saisissent ses seins en entier et se referment et s'ouvrent comme les pinces des machines de fête foraine, là, les machines pour attraper les peluches. Et il appuie les seins l'un contre l'autre, trop fort. Et de toute façon, il ne pourrait pas s'apercevoir que c'est trop fort en voyant l'expression sur le visage d'Indre-et-Loire, parce qu'il a cessé le contact visuel avec elle depuis un bon moment déjà. Et il serre, il desserre, sous le regard interrogatif d'Indre-et-Loire. Une de ses mains commence à descendre vers la braguette de notre héroïne, qui, pressentant que s'il s'occupe de sa chatte comme de sa poitrine, ça va être tendu, lui dit « Attends, je vais te montrer. » Ce à quoi il répond un « étouffé. Elle le regarde, il est penché au-dessus d'elle, sa bite pointe à travers son boxeur. Il bave un peu et ses yeux sont devenus vitreux. Et soudain, elle comprend pourquoi elle avait l'impression qu'il n'était pas tout à fait avec elle. « C'est un zombie !» se dit enfin Indre-et-Loire. Et oui, voilà qui explique tout. Le zombitisme touche la plupart des hommes cis-hétéros, du moins par période. C'est une déconnexion des neurones liée à un afflux sanguin dans la région du pénis. Cet afflux provoquerait une chute de l'alimentation du cerveau en oxygène. La science parvient encore assez mal à l'expliquer. Certaines personnes y voient un phénomène plus spirituel et pensent que l'érection rend vulnérable le psychisme et permet la possession par un esprit qui se trouverait à proximité. Ce serait simplement une coïncidence que tous ces esprits soient totalement dépourvus de compétences sexuelles. En effet, lorsque le zombie est en érection, il continue de participer à l'activité sexuelle qui était initiée, mais comme s'il était seul. Il utilise le corps de la personne avec laquelle il est pour s'exciter physiquement. Certains stimuli visuels fonctionnent toujours dans son cerveau, ceux liés à l'excitation sexuelle en particulier. Il peut donc également s'exciter en regardant certaines parties de la personne dans certaines positions, en regardant son propre pénis entrer dans des orifices. Tout ceci se déroule sans attention au bien-être de la partenaire. D'ailleurs, le concept même de partenaire est tout à fait étranger aux zombies en état de transe, car il n'y a que lui qui existe en cet instant. Il peut y avoir des états limites zombites, pendant lesquels le zombite va parvenir à percevoir et volontairement essayer de provoquer le plaisir de la partenaire, mais uniquement dans le but d'alimenter sa propre excitation. Le zombite est incapable de communiquer, à part peut-être pour articuler péniblement le mot levrette. Indre-et-Loire glisse lentement hors du lit. Elle se retourne et regarde le type se frotter sur la couette en gémissant. Il ne s'est pas aperçu de son départ. Elle se rhabille et le regarde contracter ses fesses en baisant furieusement son propre matelas jusqu'à gicler partout dessus. Dommage, il a un bon coup de rein. Dehors, une pluie fraîche lui donne un sentiment de liberté en éclaboussant ses chaussures et son visage. Elle sourit à la nuit. Elle sera quand même un peu mouillée. C'était Des litres de salive, une émission spéciale Petites histoires sympas, pour me faire pardonner d'avoir continuellement parlé de tub au cours de l'émission. À présent, je vais répéter le mot chatte en boucle avec du Damien 16 en fond sonore et ce sera à la fois un délice et une torture. Chatte, chatte. Chat. Non, ne t'arrête pas.
continue de lécher. Que j'aime quand tu fais ça. En totale soumission, en total don de toi-même. Fais monter l'excitation pour l'amour et la haine.
Chat, 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 chat.
Ça fait du mal, ça fait du bien. Ça fait du mal, ça fait du bien. Mais ta langue, tu sais, plus profond que ça, continue de bouger. Que j'aime quand tu fais ça. En totale soumission, en total don de toi-même. Fais monter l'excitation pour l'amour et la haine. Ça fait du mal. Toi-même, fais monter l'excitation pour l'amour et la haine.
Chat, chat, chat.